RCF.
Monseigneur Doré, vous êtes archevêque émérite de Strasbourg. Vous vous interrogez sur l'avenir de l'Église et vous le faites à travers un livre intitulé « Le salut de l'Église et dans sa propre conversion » publié aux éditions Salvator. Et vous vous arrêtez sur le Concile Vatican II. Vous revenez sur ce moment important où l'Église a réfléchi à sa propre réforme. 2500 évêques catholiques du monde entier rassemblés plusieurs mois pendant 4 ans. Un événement qui n'allait pas de soi. Et c'est même plutôt une surprise puisque ça venait d'un pape dont vous dites qu'il était si peu médiatique et bien vieillissant, Jean XXIII. Vous, à l'époque, vous êtes en train de faire des études à Rome.
Oui, et quand on a appris que ce monsieur qu'on avait eu l'occasion d'écouter ou de lire quand il était nonce à Paris, nous avait paru d'abord un vieux monsieur, et puis pas nécessairement préoccupé de ce qui nous inquiétait, à savoir les moyens pour l'Église d'être plus adaptée aux évolutions du monde contemporain. Et quand il a été élu pape, je dois bien reconnaître que je n'étais pas le seul à me dire « Mais qu'est-ce que ce vieux monsieur respectable mais va pouvoir apporter à cette Église qui connaît cette crise importante par rapport à ce qui était ce que j'ai connu, ce que nous avons connu quelques dizaines d'années auparavant. Beaucoup de mouvements s'étaient déclenchés dans l'Église. Il y avait un mouvement liturgique, un mouvement catéchétique, un mouvement théologique pour justement faire face à cette évolution dont un certain nombre de gens avaient conscience et par rapport à laquelle il voulait se responsabiliser. Qu'est-ce qu'on va pouvoir recevoir de ce vieux monsieur ? Et voilà qu'une fois nommé pape, une fois élu, il décide un synode romain, il décide de réformer le droit canon, c'est-à-dire la règle selon laquelle tous les appareils, les éléments de l'Église fonctionnent, et troisièmement, il décide un concile œcuménique, c'est-à-dire de rassembler, comme vous l'avez appelé, l'ensemble des évêques du monde entier. Alors, ça a été pour nous une source d'étonnement, de joie et d'espérance. C'était un grand événement, et d'autant que les premiers événements de ce concile ont été tout à fait dans le sens qui nous apparaissait à nous souhaitable d'une réinterrogation sur un certain nombre de façons de concevoir d'abord la foi, ensuite la célébration, les sacrements, et puis la vie en général, les conditions dans lesquelles on peut conduire son existence personnelle et collective. Et ça a été le programme de Vatican II, mais c'était pas gagné. Il y avait un programme qui était prévu par, disons, l'entourage du pape qui s'appelait la Curie. Et les membres de la Curie estimaient que c'est selon le programme qu'eux, ils estimaient nécessaire que les évêques là rassemblés devraient prendre position, se mettre à réfléchir. Or, dans les toutes premières séances, les 3 ou 4 cardinaux qui avaient la mission de conduire l'opération, les modérateurs, sont intervenus pour dire « Mais non, attendez, on ne va pas partir tout de suite sur des questions sous-entendu qui ne sont pas les nôtres, et avec lesquels nous venons, et sur des questions qui ont été déjà préétablies par vous, prenons connaissance, discutons, partageons, et après cela, définissons un programme. Or, quel est le résultat assez rapidement acquis de cette réaction à la proposition de la Curie romaine ?
Notamment celle du cardinal Liénard, c'est surtout lui qui a...
Parfaitement, vous êtes lilloise et je salue la référence que vous faites à cette grande personnalité.
Vous souhaitez faire remonter ces résultats.
Mais tout à fait, il faut que nous parlions, et que ce soit en fonction de ça. Il a été immédiatement appuyé par un cardinal allemand, dont le théologien, car chaque évêque avait à côté de lui un expert théologien, dont le théologien était Ratzinger. Il a été pape sous le nom de Benoît XVI. Alors, ça a été pour nous tous un moment de joie, un moment d'espérance. Et alors, à travers les 4 années, il y a eu 4 sessions. On a vu l'Église, la rassembler en la personne des évêques, réfléchir à tous ces problèmes qu'il nous paraissait se poser. Bon, rapport avec les autres religions, l'athéisme, la réalité politique, les aspects de la morale, et pas seulement la pratique liturgique et la vie morale.
Et alors de ce Concile Vatican II sont sortis les textes dont vous parliez là, à travers ces différents thèmes. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ces textes sont trop méconnus de la majorité des chrétiens?
Oui.
Il y a énormément de choses dans
ces
textes.
Absolument, absolument. Moi, j'ai vécu les 30 années qui ont suivi Vatican II comme théologien. Et j'avais acheté tous les documents. J'ai d'ailleurs eu la chance de participer à une session, d'être à Rome comme étudiant pendant une des sessions, une des quatre sessions du concile. On vivait avec des pères du concile dans la même maison où j'étais moi étudiant et eux pères du concile. Et donc, j'étais imprégné de cet esprit. Et vraiment, mon enseignement de la théologie, le fait par exemple que quand j'ai été, après mes études, nommé professeur de théologie au séminaire de Nantes d'abord, avant de venir à Paris, le fait que j'ai estimé devoir commencer par une réflexion sur la révélation. C'était pour dire qu'il n'y a pas simplement une doctrine à apprendre parce qu'elle nous a été communiquée, il n'y a pas seulement des règles de conduite à mettre en œuvre parce que c'est ça la morale chrétienne, mais il y a à réfléchir sur la manière dont tout ça nous est venu. Et tout cela nous est venu par, après une longue histoire, l'arrivée de Jésus, la venue de Jésus, et à travers lui, la révélation que Dieu nous fait de son projet de salut, de nous rassembler en une église qui sauvera ses membres et apportera le salut, proposera le salut à l'ensemble, à l'ensemble du monde. Deux choses tout à fait importantes, la grande constitution Gaudium et Spes, hein, les joies et les espérances, les tristesses et les angoisses des hommes de notre temps sont les nôtres, l'Église s'en préoccupe, c'est par rapport à ça qu'elle veut se situer, on a été comblés. De la même manière, quand on a considéré tout autrement la question de la liberté religieuse, nous sommes convaincus d'un certain nombre de choses, nous souhaitons que beaucoup de gens les partagent, mais nous respectons la liberté de ceux auxquels nous nous adressons, et même s'ils doutent de la voix, nous ferons tout pour essayer de la susciter en eux, pour qu'ils la découvrent et qu'ils s'en estiment eux-mêmes capables.
Ça reste un enjeu majeur aujourd'hui, on y reviendra d'ailleurs dans les émissions qui vont venir.
Et puis il y a eu cette affaire sur les autres religions. Jusqu'à ce moment-là, on pouvait acquérir les plus grands grades en théologie, tenir les postes les plus importants dans la pastorale de l'Église, et tout ignorer d'une autre religion que la sienne. Or, à Vatican II, on dit, mais c'est pas possible, il y a d'autres religions qui sont respectables, et nous ne pouvons pas avoir une position à leur sujet si nous ne prenons pas les moyens de les connaître, de les rencontrer, de dialoguer avec elles. Et vous savez la suite, il y a eu là, à Vatican II, et venant de l'enfance que j'ai dite, tranquille, assurée, sereine, venant de tout ça, on a vu alors l'ensemble de l'Église, les 2500 évêques du monde entier, à l'initiative du pape, proposer des ouvertures, un aggiornamento, ouvrons les fenêtres, accueillons les gens, rendons-nous disponibles à leurs questions et essayons d'en fabriquer qui soient crédibles.
Alors justement, vous vous arrêtez à la fois sur le contenu, mais aussi vous réinterrogez cette démarche de Vatican II. Parce que vous vous dites finalement, si aujourd'hui l'Église s'interroge, se laisse interpeller par notre présent, par les questions de nos contemporains, et qu'elle a engagé un mouvement de réforme, pourquoi Vatican II aurait-il pu avoir lieu? Et pourquoi aujourd'hui, après tout, il n'y aurait pas à nouveau de quoi s'interroger? Et qu'est-ce qui a favorisé Vatican II?
D'abord, à notre étonnement, je l'ai dit, sans doute investi par l'Esprit Saint, le pape, ici est mis. Or, si on fait tout de suite un rapprochement, une des grandes espérances d'une conversion de l'Église reconnue nécessaire, c'est l'actuel pape. Il secoue le cocotier dans tous les domaines, il interpelle les évêques, il interpelle la curie, il interpelle chaque chrétien, il interpelle chaque église. Et donc, il y a eu d'abord cette inattendue, entre guillemets, conversion de Jean XXIII, qui a, ce vieux monsieur tout attaché à la tradition, lancé un processus d'aggiornamento. Et puis il y a eu, alors, la réaction, pas de tous les évêques tout de suite, mais d'un certain nombre d'entre eux, ceux qu'on a évoqués, le cardinal de Lille, le cardinal de, et bien d'autres.
Les quatre modérateurs.
Voilà. Et donc il y a eu tous ces facteurs-là. Et puis, tous ces gens-là étaient accompagnés, on l'a évoqué tout à l'heure, d'un théologien qui est présenté comme peritus, c'est-à-dire expert, c'est-à-dire qu'il ne visait pas simplement à intervenir en se rendant disponible à ce que l'Esprit Saint pourrait leur inspirer individuellement et en référence à leur propre réflexion simplement, mais ils ont estimé devoir recourir à l'éclairage des théologiens, c'est-à-dire de gens qui savent ce qu'il en est, parce que c'est leur spécialité, de l'histoire de l'Église qui nous a précédés, de ce qui a permis son développement à travers les siècles, et qui réfléchissent à la manière dont tout cela est susceptible d'entrer en dialogue avec la culture d'aujourd'hui, les mentalités d'aujourd'hui, les problèmes d'aujourd'hui. C'est ça être théologien.
Sans trahir la tradition chrétienne.
Non, pour en manifester toute la vigueur, jusqu'au point où elle est susceptible d'en manifester une. Or, l'un de mes étonnements comme théologien, c'est justement de découvrir qu'à travers l'Église, il y a eu beaucoup d'efforts de transformation, de réforme, par fidélité. Pas pour larguer des choses qui étaient gênantes seulement, mais pour aller plus profond, parce qu'on s'aperçoit que dans la façon dont on conçoit les choses et les mène, eh bien, on n'est plus tout à fait centré sur l'essentiel, sur ce quoi nous devrions revenir puiser.
Comment l'Église s'est peu à peu éloignée de sa source peut-être. Merci en tout cas Monseigneur Joseph Doré, je rappelle que vous êtes l'auteur de Le salut de l'Église est dans sa propre conversion, paru aux éditions Salvator, et merci à Pierre Samanos pour la technique, merci.
Merci.